Voilà, ce soir donc, comme je le disais, nous recevons Pierre Kipret. Pierre Kipret est né en 1945 à Danané, en Côte d'Ivoire. Il est ancien élève de l'ENS de la rue d'Ulm et il est docteur ès lettres et sciences humaines. Comme je disais également, c'est un acteur de la vie politique ivoirienne, puisqu'entre 1994 et 1999, il a été ministre de l'Éducation nationale et de la formation de base de Côte d'Ivoire. Actuellement, il est professeur d'histoire de l'Afrique à l'ENS d'Abidjan. Il est spécialiste d'histoire économique, politique, sociale et culturelle de l'Afrique noire. Et il est membre de nombreuses institutions nationales, africaines et internationales. Parmi les prix, alors parmi les distinctions plutôt, Pierre Kipret est officier des Palmes académiques françaises depuis 1997. Outre de nombreuses publications qu'il a réalisées pour des revues universitaires, il a écrit les ouvrages suivants. Le premier, le président Félix Houphouët-Boigny et la nation ivoirienne, publié aux éditions NEA Abidjan-Dakar 1975. Il a publié également Ville et Côte d'Ivoire 1993-1940, tome 1, La fondation des villes, tome 2, Économie et société urbaine, publié aux éditions NEA Abidjan 1985 et 1986. Et pour ses ouvrages, il a reçu le prix Noma Award for Publishing in Africa, qui a été décerné par la fondation Sawako Noma de Tokyo avec le concours de l'université d'Oxford. Il a publié également Mémorial de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire coloniale de 1890 à 1946, publié aux éditions Ami en 1988, Le Congrès de Bamako ou la Renaissance du RDA, publié aux éditions Chaka Paris 1989, Histoire de la Côte d'Ivoire, collection de manuels du premier cycle du secondaire, édition Ami Abidjan 1992, Démocratie, progrès et ses politiques, publié à Abidjan cette année, et il apparaître cette année également, Société et Nations en Afrique. Voilà. Monsieur Pierre Kipret, je vous cède donc la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi un débat pourra suivre avec le public d'une vingtaine de minutes. Je vous remercie.
Merci à l'Université de tous les savoirs qui me fait l'honneur de m'inviter à son cycle de conférences. L'Afrique, ce continent de la diversité des espaces naturels autant que des communautés humaines, reste mal connu de beaucoup de personnes encore en cette fin du XXe siècle. Et cette Afrique, pour beaucoup, c'est le continent de l'exotisme que présentent les prospectus des tour opérateurs. Il ne s'agit donc pas de celle-là que je me propose de parler. Je me propose de parler de l'Afrique des États modernes, de l'Afrique de ses peuples dont l'histoire, plusieurs fois millénaire, est rythmée par des avancées et des reculs. Il s'agit de l'Afrique dont l'avenir souhaité s'est vu imposer jusqu'ici un avenir subi, chaotique et souvent construit par les autres. Dans les propos que voici, il y a donc le refus d'une certaine pensée dominante dans bien des cercles, même en Afrique, celle d'une Afrique sans avenir positif. En effet, le thème sur l'Afrique et ses avenirs me pose trois problèmes principaux et pose surtout au continent ces problèmes qu'il doit absolument résoudre. Le premier est celui de la capacité de maîtrise de l'environnement humain et naturel. Le second est celui de la capacité d'élaboration de stratégies nouvelles et efficaces pour mieux permettre cette maîtrise. Le troisième est celui de la capacité d'articulation bénéfique de l'avenir avec la marche des autres peuples, en tirant le meilleur parti de toutes les innovations et des progrès actuels. En fonction d'une histoire marquée par des mutations de plus en plus rapides, surtout ces deux dernières décennies, quel avenir se construisent les peuples africains aujourd'hui? Comme le relève une de mes collègues françaises, Madame Hélène d'Almeida Topor, et je cite, « À des questions semblables, les populations africaines répondent différemment en fonction de leur culture spécifique. » Fin de citation. Cette remarque fort pertinente renvoie à la relativité des réponses à cette question. Ces réponses sont fonction de tout ce que l'histoire particulière de chaque peuple a constitué comme point de départ de nouvelles évolutions, donc comme perspective d'avenir. Cette idée renvoie aussi pour tout le continent à l'ampleur et à la complexité des défis collectifs que sous-tend notre question. Aussi examinerai-je successivement la mesure des défis internes à la fin du XXe siècle, la part du contexte international dans les évolutions à venir et les perspectives souhaitées autant que les risques possibles. D'abord, la mesure des défis collectifs en Afrique à la fin du XXe siècle. Pour préparer les voies du futur, l'Afrique est soumise à une double tension née du choc permanent tout au long du XXe siècle entre nouvelles voies du développement et permanence ou survivance des paradigmes anciens de l'organisation et de la vie des peuples. En effet, notre continent connaît une première tension entre, d'une part, la rareté des ressources et des moyens pour les accroître, d'autre part, l'expression de plus en plus pressante des besoins essentiels de l'homme et des collectivités pour échapper à la spirale tragique de l'exclusion ou de la marginalisation individuelle et collective. Il connaît aussi une deuxième tension entre, d'une part, l'affirmation d'identité collective, y compris au cœur des États, à travers la question ethnique, et la nécessité de regroupement plus large, d'autre part, entre la prééminence du groupe ou de l'État et l'affirmation dominante des droits de l'individu sur le groupe. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on avait cru que la conquête des indépendances aurait permis de surmonter ces contradictions pour se mettre vite au niveau des anciennes puissances colonisatrices. Or, la situation paraît s'empirer et il faut se rendre à l'évidence, les défis à relever pour l'avenir sont d'abord principalement endogènes, au sens où il s'agit pour l'Afrique de maîtriser les formidables mutations provoquées par le choc de la rencontre avec l'Occident européen depuis la fin du XIXe siècle et accélérées depuis surtout le dernier quart du siècle finissant. Ces défis sont écologiques, démographiques, économiques et sociaux dans un continent marqué par la jeunesse de la très grande majorité de la population. D'abord, le défi écologique. L'espace physique africain montre que sur les 30 millions de kilomètres carrés, l'on a la forêt, la savane, le désert et une grouillante vie animale. Pour beaucoup, l'Afrique, depuis des siècles, est donc ce monde de l'exotisme. En fait, les paysages aujourd'hui ne cachent plus les drames d'une nature en danger. Le climat se dégrade encore plus vite qu'au cours des 17e, 19e siècles. La pluviométrie est en baisse continue, avec de longues et persistantes sécheresses, surtout depuis le milieu des années 60. La déforestation est massive. Ainsi, la superficie boisée est passée de 734 millions d'hectares en 1958 à 520 millions d'hectares en 1995. Et le continent perd plus vite sa forêt qu'elle ne reboise ses terres. Cette longue dégradation du climat, amorcée donc depuis des siècles, et dont on trouve des traces dans les documents même du Moyen Âge, est due aujourd'hui surtout à des pratiques culturales extensive, une exploitation anarchique des richesses naturelles, végétales, minérales ou minières, des forages pour des puits qui provoquent également des auréoles de désertification autour des points d'eau, etc. Et cela se combine avec de graves perturbations de l'écosystème. L'extension du désert se fait dans le Sahel. Les cours d'eau s'assèchent dans la zone forestière et de nombreuses espèces animales et végétales disparaissent aussi. Et cela à un moment où les méthodes anciennes de protection de la nature s'avèrent inopérantes. Ces méthodes anciennes, on en trouve les traces à travers les bois sacrés nombreux des populations de savanes que un de mes collègues a largement étudié. Il y a également les atteintes à l'écologie urbaine du fait d'une forte poussée démographique, mais surtout un mouvement d'exode rural important vers les villes qui est provoqué par les sécheresses, l'échec des politiques agricoles et les guerres civiles. On voit les villes gonfler rapidement, sans aménagement, et la bidonvillisation l'emporte beaucoup plus que sur les espaces organisés. Ainsi, 52% des populations africaines en 1992 étaient privées de l'accès à l'assainissement. L'espace africain mérite donc grande attention de tous les défenseurs de la nature et sa sauvegarde est un défi pour l'humanité. Les conclusions de la conférence de Stockholm de 1972, autant que diverses actions d'organismes comme le PNUE ou l'UNESCO à travers le projet MAB, montrent que cette préoccupation existe dans la communauté internationale. En Afrique même, de nombreuses actions publiques et surtout celles d'ONG dans les pays du Sahel ou en zone tropicale prouvent que la conscience du danger écologique existe. Par contre, la conscience du danger démographique l'est un peu moins. En effet, la croissance démographique en Afrique est très forte. Et le XXe siècle permet d'avoir un peu plus de chiffres. L'Afrique subsaharienne, par exemple, est passée de 142 millions d'habitants en 1930 à 221 millions d'habitants en 1960, 620 millions en 1998. On a donc ici une forte croissance démographique et les taux annuels de croissance se situent entre 2,5 et 4 % par an. Forte fécondité, baisse continue de la mortalité, lente augmentation de l'espérance de vie, tous les ingrédients sont réunis depuis les années 30-40 pour avoir une véritable explosion démographique. C'est une population aujourd'hui majoritairement jeune, après les saignées démographiques des périodes antérieures, pensez à la traite négrière des 17e, 19e siècles, des guerres de conquête coloniale des années 1890-1920, des exactions aussi de l'installation coloniale dans les années 20-30. La répartition de cette population montre des inégalités fortes. L'Afrique orientale et l'Afrique occidentale sont les zones les plus peuplées et la part prééminente des facteurs économiques, pensez notamment à toutes ces migrations de population, explique justement la répartition de cette population. Par ailleurs, la croissance urbaine très forte, explique également que nous ayons un nouveau, disons, une nouvelle répartition de cette population. L'Afrique subsaharienne, par exemple, est passée de 11% de population urbaine en 1950 à 19% en 70, 23% en 1980 et 32% en 1996. Ce qui frappe le plus dans cette population, dans cette démographie, c'est la lenteur du mouvement vers la transition démographique qui devrait être marquée par une réduction du nombre d'enfants. Or, c'est extrêmement difficile en Afrique, surtout en Afrique noire, où les mentalités ne sont pas prêtes à voir une femme volontairement refuser une maternité. Il est inadmissible dans nos cultures qu'une femme n'ait pas d'enfant. Un peu plus tard, si des questions étaient posées, je donnerai quelques éléments. Aujourd'hui, avec les nouveaux risques sanitaires comme le sida ou la non-éradication de certaines maladies traditionnelles comme la variole, la poliomyélite ou le palu, on sent qu'il y a un léger ralentissement de cette croissance démographique, mais continue de se poser cette maîtrise de cette croissance démographique. Et c'est le rôle des programmes de planning familial, partout engagés par les États, de réussir à parvenir à cette maîtrise. Les résultats sont encore assez timides dans bien des pays pour généraliser l'idée de transition démographique. Autre grand défi, ce sont les défis de l'économie africaine. Ici, la situation à la fin du XXe siècle est le résultat des politiques agricoles et industrielles des années 60-80, aujourd'hui dans l'impasse. Ces politiques avaient été élaborées sous l'influence des experts de l'époque, y compris ceux du FMI ou de la Banque mondiale. Et les États avaient donné la priorité aux cultures de rente sur les cultures vivrières pour ce qui concerne la politique agricole, faisant ainsi de l'agriculture une source de recettes budgétaires de l'État pour financer les autres activités, les autres secteurs d'activité. On s'est peu intéressé à la faible compétitivité du travail agricole, et les résultats aussi des politiques d'industrialisation de l'Afrique ont été très décevants. L'industrie de substitution ou l'industrie lourde pour certains pays producteurs de pétrole, avec tout ce système d'usines clés en main, n'a quasiment rien donné. C'est sur ces entrefaites que la crise des années 80-90, marquée par la baisse des prix de matières premières, la médiocrité des termes de l'échange, s'est abattue sur l'Afrique. Mais c'était une crise, et c'est une crise qui est également structurelle. Et comme l'on le constate à travers tous les rapports, aussi bien de la Banque mondiale, de la BAD que du FMI, le revenu par tête d'habitant n'a cessé de baisser depuis les années 75-78. Reste la grosse question de la dette, extérieure. On a pensé au moment où la crise éclatait qu'elle serait passagère, et on s'est endetté lourdement, au point que aujourd'hui on constate que le fardeau de la dette est devenu insupportable. Cette dette, en 1980, était de 123 milliards de dollars. En 1998, elle était déjà de 332 milliards de dollars. Ce qui, par rapport au produit intérieur brut de l'Afrique, représente 31,9% en 1980 et aujourd'hui 58,9%. En 1998. C'est une dette insupportable et c'est une dette qui obère totalement les possibilités de développement. Chez les détenteurs de capitaux, on a constaté en même temps un faible engouement pour l'Afrique depuis les années 80. Il y a également à apprécier de manière interne l'attitude africaine face au profit et à l'investissement à long terme. L'investissement interne est faible. On est passé de 9,8% dans les années 65-73 à 4% en 73-80. Le niveau d'épargne nationale également est généralement faible, 21,8% du produit intérieur brut en 1980, 15,9% en 1995 et aujourd'hui 14,8% selon le rapport de la Banque africaine de développement. L'on peut se poser la question pourquoi? C'est à la fois pour des raisons de politique économique, mais surtout pour des raisons culturelles, car dans les sociétés africaines généralement, La richesse n'a de valeur que sociale, d'où la propension à des dépenses de prestige. Et lors d'une étude que j'ai menée avec une équipe, nous avons, sur la Côte d'Ivoire et le Sénégal, nous avons constaté qu'il n'y avait, depuis le XVIIIe siècle jusqu'au XXe siècle, aucune dynastie de grands marchands. Tout simplement parce que lorsqu'on atteint un certain niveau de richesse, il est nécessaire de redistribuer, de faire une redistribution sociale de cette richesse. Enfin, il y a les effets désastreux des plans d'ajustement structurel qui obligent l'Afrique à sortir aujourd'hui, à trouver les moyens de sortir de ce que j'appellerais le guépier de Bretton Woods, en développant de nouvelles formes de production susceptibles de donner un revenu stable à la collectivité et à l'État. On mobilisera ainsi plus d'épargne nationale et surtout une épargne longue pour promouvoir des instruments plus incitatifs dans nos pays. Enfin, les défis politiques et sociaux. La première chose à relever, c'est l'expression de plus en plus pressante des besoins sociaux, aussi bien dans le domaine de l'éducation, la santé, l'eau, l'électricité, tout le monde veut y accéder. Mais en même temps, l'on constate un faible niveau de satisfaction de ces besoins, surtout depuis les années 80. Ainsi, en 1998, on a 46% des personnes, des populations, qui sont privées d'eau potable, 59% d'analphabètes adultes, et le taux brut de scolarisation pour l'ensemble du continent se situe, du moins pour l'Afrique subsaharienne, se situe à 42%. Il y a donc insatisfaction parce qu'il y a également crise de l'État autoritaire hérité de l'ère coloniale et des années 60. Les partis uniques, les pouvoirs militaires n'ont donc pas apporté satisfaction, ce qui explique donc que ce que l'on appelle le vent de l'Est ait eu un écho positif dans les populations africaines. L'État étant faible et n'apportant pas les solutions adéquoates aux populations, il a fait donc l'objet d'une remise en cause, en même temps que s'est posée de manière crue la question des libertés publiques à la fin des années 80 et au cours des années 90. Cette question des libertés publiques s'est accompagné de la question essentielle, celle de vivre ensemble dans l'État. Et depuis les années 90, les tensions se multiplient pour à la fois fixer la question de la transition démocratique, la question de la bonne gouvernance et surtout la résolution du problème ethnique. Cette résolution du problème ethnique se fait surtout par rapport aux enjeux du pouvoir dans les élites. Il y a de la part des élites une politisation de la différence ethnique et en tirant le meilleur parti des disparités régionales du développement national. Et cela au moment même où la crise économique ne permet plus les ajustements nécessaires. Les termes de la cohésion internes sont ainsi faussés et le défi est d'en trouver de plus pertinents pour rendre à nouveau viables les États. Beaucoup aujourd'hui souhaitent la réduction des pouvoirs centraux malgré le risque de crispation régionaliste. Enfin, dernier élément de ces défis politiques et sociaux, la question de la libération des potentialités de la femme. Partout aujourd'hui sont réévaluées les approches anciennes dans les coutumes, les pratiques sociales, et cela par rapport à un droit positif occidental que tous, ou presque tous, semblent avoir adopté. La question des contraintes et des injustices à l'endroit des femmes est clairement posée.
Le défi ici est de promouvoir la pleine citoyenneté chez la femme, de mieux promouvoir aussi cet agent économique qui, malgré la part essentielle de son action économique et de ses initiatives, par exemple les tontines, les activités du secteur informel, les réussites sociales nombreuses que l'on connaît, malgré tout cela, la femme est traitée en agent d'appoint. Les ONG et les politiques en cours, les revendications des femmes elles-mêmes, par exemple les revendications contre les mutilations, contre les violences familiales, contre les relations inégalitaires dans les familles, la part importante prise par les femmes dans les luttes de libération dans certains pays. Souvenez-vous que, par exemple, ce sont les femmes qui ont lancé en Afrique du Sud la lutte contre les laissés-passer dans les années 50-60. Bref, tout cela semble constituer des indicateurs de la volonté de relever ce défi de la libération de la femme africaine. Enfin, il y a cette volonté de maîtriser et de réduire les nouvelles formes de marginalité ou d'exclusion sociale. En effet, l'exclusion sociale est présente en Afrique. Elle se fait par le revenu. Et par rapport à cet élément, on sait que, par exemple, entre 1989 et 1998, on avait entre 36 et 79% des populations, selon les pays, qui n'avaient que 1 dollar par jour dans les pays d'Afrique subsaharienne. Cette exclusion aussi se fait par la maladie. On connaît le cas des lépreux, mais aujourd'hui, il y a le cas des handicapés physiques et il y a celui des sidéens, que partout l'on met en marge de la société. Il y a aussi l'exclusion par l'activité, notamment la prostitution publique. Pour prendre le cas de l'Afrique de l'Ouest, la prostitution publique n'apparaît que dans les années 20-30, dans les documents. Elle s'est développée rapidement dans les années 70 et aujourd'hui, on la trouve même parfois dans les campagnes. Elle constitue pour beaucoup de gens, disons, un élément de réprobation sociale. Et la prostituée est exclue de la société. Ces modes d'exclusion se superposent à celui traditionnel dans les sociétés qui frappe les gens de caste dans certaines sociétés africaines. Par contre, on constate qu'il y a une volonté politique de remédier à toutes ces nouvelles formes de marginalité. Ainsi se mettent en place partout les plans de lutte contre la pauvreté et les politiques d'insertion sociale des malades, malgré la modicité des moyens et le poids des pesanteurs sociologiques. Au regard donc de tous ces nouveaux questionnements qui se font jour dans les sociétés africaines et par rapport au souci de trouver les voies nouvelles du développement durable, les défis sont nombreux. Des solutions sont expérimentées ou tentées. Leur efficacité et parfois leur mise en œuvre urgente commanderont la nature des perspectives du prochain siècle ou au moins celle des 2 ou 3 prochaines décennies. Mais il n'y a pas que des solutions internes, même si elles sont essentielles. Il y a aussi ce que les autres continents peuvent apporter à l'efficacité de nos réponses. Or, bien sûr, la valeur des modèles expérimentés ailleurs qu'en Afrique. Il s'agit là donc du contexte international dans lequel se prépare l'avenir de l'Afrique. Et ce contexte n'est pas particulièrement favorable à notre continent. En effet, à la fin du siècle, déjà au début des années 80, le climat d'euphorie qui avait donné vie active au tiers-mondisme des années 60-70 est peu à peu tombé. Il a fait place à un pessimisme qui, lui, a donné une nouvelle vigueur à l'afro-pessimisme du milieu des années 50. La crise de plus en plus aiguë en Afrique a renforcé ce courant. Je vous renvoie là notamment à cet ouvrage collectif de Robert Broman sur le tiers-mondisme en question qui est paru en 1986. Mais les perspectives, en fait, qui s'offrent à l'Afrique doivent non pas tellement s'apprécier par rapport à cet afro-pessimisme, mais plutôt par rapport aux conséquences de la fin de la guerre des blocs qui accentue dans les années 80 le peu d'intérêt du monde développé pour notre continent, et cela au profit de l'Europe de l'Est ou de l'Asie du Sud-Est. Ces perspectives sont fonction aussi de la globalisation accélérée de l'économie mondiale, de même que les évolutions possibles des relations interafricaines au cours des prochaines années joueront un rôle important dans le futur de l'Afrique. Rapidement, la fin de la guerre froide en Afrique s'est caractérisée d'abord par la chute de tous les régimes qui se définissaient comme marxistes. Elle s'est également caractérisée par le recul de l'Europe occidentale et, par contre, l'hégémonie grandissante des États-Unis d'Amérique. Elle s'est enfin caractérisée par le développement ou l'écho, pas toujours bien accueilli sur notre continent, de ce droit d'ingérence que plusieurs grandes puissances, soit directement, soit indirectement, s'arrogent. Et nous voyons ainsi, à travers les soubresauts qui marquent notre continent, des tentatives de règlement des conflits internes, tentatives africaines, entre guillemets, alors qu'en réalité, il s'agit souvent de ficelles tirées par les grandes puissances. L'autre élément sur lequel je voudrais passer assez rapidement, c'est la question de la globalisation de l'économie et les handicaps de l'Afrique. La notion de globalisation de l'économie est une fausse nouveauté pour l'Afrique, puisque au cours du XXe siècle, le poids de l'extérieur dans l'économie africaine a été toujours déterminant et très présent. L'essentiel des échanges extérieurs de tous les pays africains au cours du siècle s'est fait plus avec l'Europe ou l'Amérique qu'avec d'autres pays africains. L'échec des négociations pour un nouvel ordre économique international entre 1974 et 1992 marque pour moi la victoire des stratèges du maintien de la dépendance économique de l'Afrique et la victoire du projet de G7 contre le groupe des 77. Le renforcement de la dépendance économique africaine s'est fait sans accroissement des investissements extérieurs, ni augmentation de l'aide au développement. Outre la réduction des objectifs d'aide, on avait parlé de 0,15% du PIB des pays développés, on est aujourd'hui très loin de ce point. Les accords multilatéraux aussi sont souvent l'objet de marchandages interminables. J'ai eu la chance d'assister à quelques négociations dans le cadre des accords Union européenne-ACP. J'avoue que je ne recommencerai plus parce que c'est souvent, on a parfois l'impression de marchands de tapis. Même l'aide humanitaire est remise en cause par la presse et les milieux intellectuels des pays développés sous les prétextes les plus divers. Par ailleurs, le Fonds monétaire et la Banque mondiale ne renoncent à aucune créance si ce n'est à des conditions drastiques, bien que les flux nets leur soient favorables. Aujourd'hui, le stock des intérêts de la dette extérieure l'emporte très largement sur le principal de cette dette et ne fait que renforcer le fardeau de cette dette et des misères africaines. Face à cela, les handicaps de l'Afrique elle-même sont nombreux dans les échanges mondiaux. Faible compétitivité, produits primaires, faible part dans les échanges mondiaux, etc. Et finalement, on a l'impression, vu d'Afrique, que notre continent est une zone de réserve de richesse de l'humanité, qu'en raison du faible niveau de formation technique, les Africains ne peuvent pas eux-mêmes mettre en valeur. Effectivement, ce niveau est faible. Pour prendre juste un chiffre, en 1991, pour prendre le cas de l'Afrique subsaharienne, on comptait 38 étudiants pour 10 000 habitants, 667 élèves de l'enseignement secondaire et technique pour 10 000 habitants, et pour l'ensemble du continent, on ne comptait que 13 674 chercheurs dans 602 centres de recherche. Lorsque vous prenez en compte l'Afrique du Sud, du moins lorsque vous retirez l'Afrique du Sud de ce chiffre, vous imaginez qu'il ne reste presque plus rien en matière de recherche ou de formation technique. Et pourtant, l'Afrique est un futur espace de croissance économique, d'abord à cause de ses potentialités naturelles, d'importantes réserves de richesses minières et minérales, autant que des espaces cultivables, et aussi parce que le rendement des investissements privés y est toujours plus élevé qu'ailleurs que sur n'importe quel continent. Et nous pensons que ce contexte international pourra évoluer favorablement. Dans ce contexte, il faut prendre en compte aussi les relations interafricaines et la question de l'unité africaine. L'étude des guerres et de la paix en Afrique montre qu'il y a très peu d'affrontements entre États. Mais il y a par contre beaucoup plus de guerres civiles. Les affrontements entre États viennent parfois des questions de frontières, viennent plus souvent de la question du contrôle des ressources connues. Par contre, les guerres civiles pose de manière crue la question du statut de l'étranger ou la crispation identitaire qui va jusqu'au niveau, je dirais, local à l'intérieur des États. Guerre et paix en Afrique montrent que l'Afrique est une zone de forte perturbation, d'insécurité et d'instabilité, ce qui explique qu'aujourd'hui, l'Afrique soit championne du monde du nombre de réfugiés. Et pourtant, nous allons vers une nouvelle géopolitique par la mise en œuvre de regroupements régionaux et des politiques d'intégration économique, surtout depuis les années 80-90. On compte une dizaine de regroupements régionaux pour tout le continent depuis 1975, et pour la seule Afrique de l'Ouest, il y a eu plus de 30 accords d'intégration régionale signés entre les différents États. Mais ces organisations et ces accords n'ont pas réussi à accroître les échanges ou à améliorer la situation économique du continent. Cela vient de la dépendance vis-à-vis des exportations de produits primaires que tous ces États produisent. Cela vient aussi du faible niveau des revenus et des termes de l'échange de ces pays, de l'absence de complémentarité réelle dans la production de biens et services, de l'insuffisance des infrastructures de communication. Toutefois, l'approche du traité d'Abuja, qui date de 1991, paraît neuve et traduit trois idées importantes. Premièrement, solidarité. Deuxièmement, autonomie collective. Troisièmement, développement auto-entretenu et endogène par des politiques d'approvisionnement pour la couverture des besoins essentiels. Et cela prend en compte l'harmonisation des plans nationaux de développement. On voit ainsi se dessiner l'amorce d'une géopolitique autour de quelques grands pôles fondés sur la complémentarité des économies et des schémas de développement. Enfin, tous nous espérons que se réalise un jour ce vieux rêve de l'unité africaine. Mais ici, nous avons quelques graves limites, surtout de l'OUA, dont la stratégie d'unité est fondée sur l'unité par le sommet, plutôt que la promotion de cette idée d'unité dans les populations. Ainsi, le poids de l'Afrique dans le Conseil des Nations est-il réduit très fortement? Bien sûr, au plan hors d'Afrique, on a de plus en plus d'Africains dans le fonctionnement des institutions internationales, mais l'Afrique pèse très peu dans les décisions. Au total, donc là, il y a nécessité de réajuster les stratégies de présence de l'Afrique dans la marche du monde si l'on veut que le contexte international puisse nous être un peu plus favorable. Il y a nécessité de comprendre aussi qu'il y a une liaison étroite entre présence économique et poids international. Il y a enfin nécessité de comprendre que la paix est le préalable à tout développement durable en Afrique et qu'elle exige une redéfinition de la coopération interafricaine et de la coopération internationale. Quelles sont donc les perspectives des prochaines décennies? Bien sûr, les surprises de l'histoire sont toujours possibles. Par exemple, l'Union européenne, malgré des siècles de guerre entre les nations, est en train de se constituer sous nos yeux. Mais les bégaiements aussi de l'histoire sont toujours possibles. À la fin du XXe siècle, on constate en Afrique des voies nouvelles en rupture avec le mal-développement du siècle finissant. Elles sont peut-être le point de départ d'un avenir favorable. Ce sont ce que j'appelle les perspectives souhaitées par tous, en liaison avec nos capacités d'adaptation et de réajustement. Mais dans le même temps aussi, on a l'expression encore vivace de résistance au changement qui, partout, donne à l'histoire sa part d'imprévus et de zones d'ombre. Rapidement, quelques-unes de ces perspectives de rupture. Il y a d'abord la question du développement des libertés pour élargir la participation citoyenne. Dans les villes africaines des années 90, les grèves des travailleurs, des étudiants et élèves, la mobilisation des femmes prouvent la mise en œuvre de pratiques de rupture avec l'ancien ordre des choses. Et l'on l'a vu au niveau de l'Afrique du Sud, par exemple, que la victoire de l'ANC est une victoire pour une citoyenneté sud-africaine. Et la chute de l'apartheid après le référendum du 18 mars 1992 et l'adoption d'une nouvelle constitution le 22 décembre 1993 ouvre à ce pays les voies d'un nouvel avenir moins stressant, pour ne pas dire plus. Ailleurs, on constate également de ci, de là, et dans des situations particulières, le même mouvement et la même volonté de changement. Si de nombreux Africains désemparés, comme le disait un de mes aînés, Christophe Ondji, désemparés par les effets sociaux de l'ajustement, tentent de trouver des raisons de vivre en adhérant à de nombreuses sectes, des confréries religieuses ou aux églises nouvelles, très florissantes en Afrique, il reste que la grande majorité des populations est tout entière tournée vers la voie du combat politique pour plus de démocratie et pour un plus grand respect des droits humains. Cette volonté de changement est perceptible partout en Afrique et elle rend urgente chez les décideurs des stratégies nouvelles d'un développement durable, faisant appel à la participation de tous les citoyens. C'est pour cela que les années 90 marquent le printemps de la parole et de la presse à travers cette floraison des partis politiques et cette floraison des journaux. L'autre élément de rupture, c'est cette volonté et ces progrès importants que l'on constate en faveur de l'éducation. L'éducation devient aujourd'hui, plus que par le passé, la clé de la promotion individuelle et collective. Elle est aussi la clé de l'internalisation d'un certain nombre d'éléments de progrès voulus et souhaités par tous. Bien sûr, il y a encore des retards. Bien sûr, les femmes sont moins bien loties en matière d'éducation, mais il y a cette volonté et les progrès sont évidents au niveau de la scolarisation des filles. On pourrait en parler de longs moments si vous voulez. Il y a également la nécessité de revitaliser notre culture et, je dirais, de réinventer notre culture, d'abord par la promotion du dialogue interculturel à l'intérieur des États et entre les États, entre l'Afrique et le reste du monde. Ensuite, la prise en compte de la pensée scientifique et technique pour revivifier une culture ou des cultures encore beaucoup plus marquées par le hasard ou, je dirais, les aspects religieux. Il faut ensuite aussi réorganiser l'initiative individuelle et promouvoir l'autonomie individuelle au plan économique. Il faut enfin et surtout lutter contre la corruption, la mauvaise gouvernance, par une meilleure réorganisation de l'État, autant que par une internalisation du concept d'État dans les populations. Je cite souvent un exemple que j'ai vu lors d'une tournée. Il y avait des fils électriques, des fils téléphoniques qui traînaient et un paysan qui cherchait quelque chose pour attacher son fagot est parti couper et il a attaché purement et simplement. Il ne se rendait pas compte que, et ça ne lui disait rien, qu'il s'agissait là d'un instrument de communication important. Quand on lui a posé la question, il dit « Oh, ça, ce sont les histoires de blancs, moi j'ai besoin d'une corde. » Et cela m'amène justement à indiquer qu'il y a aussi ces perspectives d'une rupture contrariée. Premier élément de cette perspective, c'est la lenteur de la diffusion de la pensée scientifique et technique dans nos populations. Il y a aussi les identités multiples au cœur des États. Et c'est un danger permanent pour l'unité nationale de chacun de ces pays. Les guerres civiles, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, les guerres civiles comme celle du Libéria, ou de Sierra Leone, ou des deux Congos, celle qui a failli éclater dans mon propre pays il y a à peine une semaine, se réfère justement à ces mécanismes d'identité éclatés au cœur des États. Ces identités multiples sont aussi un danger pour l'unité africaine, car malgré les discours, le nombre des expulsions massives d'étrangers est important. Dans les années 90, on n'en compte pas moins d'une trentaine d'expulsions d'étrangers de tout un pays. Par exemple, le cas le plus spectaculaire est celui en 93 du Nigeria, où les autorités nigérianes ont expulsé 3 millions d'étrangers africains de leur sol. Dans mon propre pays, l'année dernière, vous avez eu écho de ce qui s'est passé également vis-à-vis de la population, d'une partie de la population burkinabé. Il y a un autre élément qui risque de contrarier les perspectives les plus favorables. C'est la question du droit au travail. À la faveur du fonctionnement de l'État-providence en Afrique, tout le monde s'est mis à exiger le droit au travail. Alors que dans un continent largement en friche, il faut plutôt parler de devoir de travail plutôt que de droit au travail. Chacun doit pouvoir s'assumer en développant sa créativité et son esprit d'entreprise. Enfin, deux derniers éléments, il y a le poids encore très fort de l'économie de rente qui constitue un frein au développement des échanges interafricains ou au développement économique tout court en Afrique. L'autre élément, ce sont les risques permanents d'intervention des grandes puissances sous la pression des entreprises transnationales contre lesquelles aucun État africain ne peut lutter. Même déjà chez vous ici, c'est compliqué à plus forte raison dans un pays pauvre. En conclusion de tout cela, les désordres et toutes les formes d'insécurité dont l'Afrique est le théâtre en cette fin du XXe siècle explique que les tenants de l'afro-pessimisme restent sceptiques sur les chances de l'Afrique de cesser d'être le fardeau de l'humanité. Et cela au moment même où les fantastiques acquis de la science et des techniques pouvaient laisser supposer la fin des misères les plus criardes dans le monde. Mais en même temps, les acquis collectifs et individuels réalisés au cours du XXe siècle dans des conditions très difficiles sur ce continent, laisse penser ou espérer que les prochaines décennies peuvent être l'occasion de changements plus positifs que négatifs, car est fortement présente partout la volonté de réévaluation du passé et celle du changement positif. Si l'on se place dans la longue durée des siècles, le XXe siècle apparaît comme un siècle moins obscur que les siècles précédents. Et la créativité des peuples africains, autant que leur capacité d'adaptation, sont restées fortes. Mais que de défis urgents encore à relever, que d'obstacles à surmonter tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Sur un continent marqué par la pluralité des cultures anciennes et par l'ouverture aussi de plus en plus affirmée de la modernité, l'avenir sera ce que les peuples seront dessinés par eux-mêmes et avec les autres continents, dans des rapports de réciprocité enrichissants et bénéfiques pour tous, en vue de la réalisation d'un nouvel ordre, d'un nouvel humanisme fondé sur l'équité et la solidarité comme base d'un nouvel ordre du monde. Je vous remercie.